Lire dans le noir.
L'évangile de Jimmy, par Didier Van Kovelaert.
Disque numéro 6, suite du chapitre 14.
Tout s'est très bien passé au début. Ils étaient une dizaine dans la suite 41-39. J'ai fait les présentations en commençant par ceux dont j'étais le plus sûr, le docteur Entridge et Buddy Kupperman. Ils ont salué Kim d'un sourire aimable, sans paraître choqué de me voir débarquer avec une avocate. L'évêque lui a tendu la main. Au lieu de la serrer, elle lui a embrassé la bague. Il a eu l'air content. Ça doit se faire dans leur milieu. Les bras ouverts en signe de réconciliation, il m'a prié d'excuser la sévérité de ses paroles au déjeuner. J'ai pardonné de bon cœur en lui suggérant simplement de me gifler la prochaine fois sur la joue gauche. Il n'a pas percuté, m'a demandé pourquoi je voulais qu'il me gifle. Et c'est lui qui est censé m'apprendre la théologie. Je lui ai dit d'aller en paix avec une tape sur l'épaule, j'ai entraîné Kim vers Irwin Glasner, le juge Claiborne, et puis on s'est laissé présenter les autres. Le speedé volubile en daim pastel nous a trimballé d'un général à un nutritionniste, d'un professeur de langue à un coach mental, pour finir par la seule femme de l'équipe, un boudin au mas chargé de me relooker. Je lui ai souhaité bon courage, tout en me disant qu'ils avaient dû la choisir pour m'inciter à l'abstinence. On s'est assis autour de la table basse et, en préambule, j'ai tenu à mettre les choses au point. Si on faisait affaire, je voulais bien tenter par exemple l'expérience de la chasteté, mais je refusais qu'on prenne mon libre choix pour le respect d'un interdit que je contestais. Nulle part Jésus ne condamne les relations sexuelles en tant que telles, et le péché de chair n'est qu'une invention de l'Église pour que les gens se sentent coupables. Un léger froid a suivi mon introduction. Je regardais surtout la réaction de Mgr Givens, qui s'est contenté de prendre acte en écartant les mains. Buddy Kupperman m'a souri. « Le seul péché qui ne sera pas pardonné, Jimmy, si je me souviens bien, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit, de prendre les envoyés du ciel pour des suppôts du diable. » Et il s'est tourné vers le docteur Entridge, tandis que je confirmais que c'était dans Saint-Marc. « Voilà déjà un point acquis !» s'est réjoui le juge Claiborne, qui, jambes croisées, un coude sur le dossier de sa chaise, jouait dans les vagues de son double menton. J'ai passé la parole à mon avocate, et elle m'a scotché en leur présentant, sans consulter son aide-mémoire, un cahier des charges qui prenait en compte et accentuait toutes mes craintes, mes réserves et mes revendications. « C'est oui à tout !» a laissé tomber le juge qui n'avait rien noté. « Quoi d'autre ?» Un silence désarmé a ponctué la phrase qu'il avait prononcée d'un ton définitif, avec un air de soulagement. On aurait dû demander plus. J'ai échangé un regard avec Kim, et ça m'a réchauffé de voir qu'elle paraissait aussi déçue que moi de cette victoire par abandon. « Les assurances », a-t-elle enchaîné. « Quel type de contrat avez-vous souscrit ?»«
À quel point de vue ?» s'est refroidi Claiborne, comme un gastronome qui voit venir l'addition.
Dans l'éventualité d'un attentat dont il serait victime durant l'exercice de son ministère, comment compteriez-vous l'indemniser? Et quelle serait sa responsabilité pénale en cas de crime perpétré en son nom, voire de conflit religieux provoqué par son apparition publique?
Chaque chose en son temps, a déclaré le juge, la voix onctueuse et l'œil glacial.
Nous ne sommes pas d'accord, a riposté mon avocate.
Tous ces éléments concourent évidemment à la décision que nous allons prendre. On ne s'engage pas à la légère lorsqu'il s'agit d'assumer l'identité génétique du Christ face à ses partisans comme à ses adversaires.
Sur un signe de Buddy Kupperman, le juge a refermé la bouche. Kim s'est tourné vers le conseiller Glasner.
« Je suppose que vous avez fait estimer mon client. À combien a-t-on chiffré la valeur de son ADN ? En cas d'accident, de maladie ou d'empêchement, prévoyez-vous de le cloner à son tour ? Si oui, à quelles conditions et sous quelle forme s'exercerait le droit de suite ?
Plus personne ne souriait autour de la table. Irwin Glasner me dévisageait, consterné, avec l'air de me plaindre. Moi aussi, je trouvais que mon avocate allait un peu trop loin et j'avais peur qu'elle ne fasse tout capoter par excès de zèle. C'est le problème avec les débutantes. Le docteur Entridge lui a demandé avec beaucoup de douceur si son but était de défendre mes intérêts ou de décourager ma vocation. Je veux qu'il ait conscience de ce à quoi il s'expose.
Concernant les relations israélo-palestiniennes, dans quelle stratégie comptez-vous l'inclure ?
Monseigneur Givens s'est raclé la gorge. Les doigts joints devant son nez, il s'est adressé à moi avec une autorité sereine et respectueuse, comme si j'avais sollicité son avis.
« J'admets la nécessité de cette discussion, Jimmy, mais je ne suis pas certain qu'elle vous apporte l'élévation d'esprit à laquelle vous avez choisi désormais de vous consacrer. »
L'intelligence compréhensive dans son regard a dissipé le malaise que m'avaient donné les différentes situations imaginées par mon avocate. Je me suis levé, j'ai dit à Kim que j'allais dans ma chambre attendre qu'elle ait fini. Entouré d'un silence approbateur, je suis sorti en les laissant régler mon sort. Et depuis 20 minutes, je marine dans un bain moussant à la pomme verte, rajoutant de l'eau chaude avec mon orteil, tout en zappant sur la télé encastrée au-dessus du porte-serviette. L'anxiété a fait place au détachement, puis à la confiance. Au diable les détails matériels. L'important est qu'on me donne les moyens de comprendre et d'accomplir ma mission, de savoir dans quel but je suis venu au monde et comment adapter le discours du Christ aux hommes d'aujourd'hui. Les chaînes balancent des morceaux d'infos au rythme de mon doigt sur la touche. Soudain, je sursaute. Le visage d'Irwin Glasner a surgi, plein écran. Debout sur fond bleu devant l'emblème de la Maison Blanche, il annonce tristement que, pour des raisons encore inconnues, la navette Explorer vient de se désintégrer dans la stratosphère. Je le regarde avec un retour de malaise. Il a l'air si différent, si mécanique. Je ne retrouve pas cette lueur d'humanité, ces élans de passion blessés que je ressens quand il est devant moi, cet enthousiasme de vieil ado momifié dans le sérieux des fonctions officielles. Qui est le vrai Irwin? Le politique à formule creuse débitant ses condoléances aux familles des cosmonautes en faux direct avec l'œil vide? Ou le scientifique utopiste qui me regarde comme le rêve de sa vie? Peut-être que je lui fais du bien, qu'il redevient lui-même à mon contact. Comme Buddy Kupperman, comme le père Dunaway, Monseigneur Givens, ou même la petite Kim dont les compétences et l'audace ont bluffé les huiles de Washington. Ce n'est pas directement mon influence, mais l'enjeu que je représente pour eux les aide à dépasser leurs limites. Je suis peut-être là pour ça. La météo des plages succède au communiqué d'Irwin et je coupe le son. La rumeur de la ventilation faiblit, s'arrête. J'ai dû enfoncer 2 touches à la fois sur la télécommande qui regroupe toutes les fonctions de ma chambre. La buée envahit la salle de bain et je me fige. Dans le miroir au-dessus du lavabo apparaît peu à peu une croix. Je l'observe en retenant mon souffle, tandis que ses contours se précisent à mesure que la vapeur s'épaissit. 2 autres dessins ont commencé à se former de chaque côté. Un éclair, une spirale. Sans doute le tracé par lequel la femme de ménage a nettoyé la glace en 3 coups de chiffon. Je sors de la baignoire, m'habille, écris un mot pour Kim sur le carton « Ne pas déranger » que j'accroche à ma porte et je descends dans la rue. La pluie s'est arrêtée, les bouchons klaxonnent sur la 57e. Le chauffeur jaillit de la limousine, m'ouvre la porte arrière. Je lui dis non merci, traverse et part en direction de Central Park.